penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre nouvelle biographie audio, dédiée comme tous les mois à un acteur du monde de la musique en Bretagne. Ce mois-ci, nous partons à la découverte du parcours de Perrine Lagru, la directrice de la grande boutique à Langonnette. Ce lieu de création situé en centre-Bretagne est dédié aux musiques de Bretagne et du monde et de la musique jazz. Les empreintes musicales de ce mois se déroulent en Morbihan, mais de manière virtuelle, puisque cet entretien a été réalisé par Skype pendant la période de confinement de ce printemps 2020.
Les empreintes musicales.
Bonjour Perrine Lagru.
Bonjour.
Bonjour, de retour avec vous pour cette deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, on va évoquer votre entrée dans la vie adulte et vos études supérieures que vous orientez donc dès 1996, donc juste après le bac, à la rentrée 96. Donc vous quittez le Cresbraise, hein, la région de Calac, les copains de Guingamp, les Fesnos du Cresbraise, pour aller donc vivre en ville, à Saint-Brieuc.
Oui, c'était un peu la suite logique à l'époque. L'antenne de universitaire de Saint-Brieuc, accueillait une grande partie d'entre nous après le bac. Et effectivement, je pars dans la filière histoire, avec pour objectif de préparer le concours de sciences politiques.
D'accord.
Toujours dans cette optique du journalisme et du grand reportage, du voyage. J'aime beaucoup j'aime beaucoup l'histoire et comprendre ce qui a fait que nous sommes devenus la société que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est dans cette filière-là que je m'embarque.
D'accord. Donc, on quitte le centre-Bretagne et la vie plutôt tranquille à la campagne pour aller pour une plus grande ville avec donc les premiers mois de l'indépendance aussi pour vous, en dehors des parents.
C'est vrai. Alors moi, je suis dans une chambre chez l'habitant, chez la sœur d'une copine à mes parents, donc j'ai pas le petit appart ou la coloc. Et puis je rentre tous les week-ends. En fait, la Saint-Brieuc, c'est un peu la ville dortoir de la semaine. Ma vie continue, amicale, etc. C'est reste dans le centre Bretagne, il reste à Calac. C'est pour moi pas un souvenir d'une immersion dans la vie urbaine, quoi.
Ni dans le style de vie, le cadre de vie un peu étudiant. Vous consacrez quand même, vous êtes quand même un peu assidu et sérieux sur sur vos études d'histoire, alors pour envisager après la suite d'aller donc accrocher à l'IEP de Rennes, les instituts d'études politiques. Hein.
Oui, alors c'est vrai que dans la grande majorité, les cours m'intéressent, donc j'arrive à tenir. Je suis les cours. C'est vrai que mon entourage, tous les copains sont pas comme ça. Encore une fois, après, je pense que je fais le strict minimum pour que ça passe.
Mm-hmm.
Je suis toujours un peu comme ça dans les deux extrêmes. On lâche tout à un endroit, mais on tient le cap à un autre, quoi. Donc, normalement, ouais, je pense que je fais pas une si mauvaise année d'histoire, ouais. Et puis, vraiment, j'aime bien de rencontrer des maîtres de conférences aussi et d'être dans un autre rapport à l'apprentissage que celui vraiment très scolaire du lycée me convient assez bien, je crois.
D'accord. Vous pouvez échanger un peu des idées, pouvoir ouvrir l'esprit sur...
Ouais, voilà, je crois qu'on est dans un apprentissage qui va un peu plus loin, quoi, qui est celui de l'enseignement supérieur. Et je pense que j'apprends, vraiment, j'apprends des choses. J'avais un prof d'histoire ancienne, là, sur la Grèce. Enfin, bon, je sais pas ce qu'il m'en reste aujourd'hui, mais je me rappelle, il suit ses cours comme un roman, quoi. Alors, en fait, au terme de mon année d'histoire, de mon première année de doc d'histoire, mes parents m'inscrivent quand même à une prépa intensive d'été pour préparer le concours que je fais à Nantes. Je flippe un peu quand même parce que je me rends compte que moi, je suis une bonne élève, mais je ne suis pas une très bonne élève. Enfin... En tout cas, là, je me rends compte qu'il y a des gens qui sortent de Cannes, Hippocagne, et qui ont un autre bagage aussi intellectuel. Là, on me confronte à des œuvres littéraires, Benjamin Constant, etc. Là, je commence à sentir que ça va être pas si facile, ça va pas être facile. Et je passe trois concours, en fait, celui de Rennes, celui de Bordeaux et celui de Paris. Mmh. Je suis prise à Rennes, toute dernière sur la liste principale, c'est-à-dire qu'ils en prenaient 120. Ben, je dois être la 120e. C'est vraiment...
une extrémiste.
Je suis sur la liste officielle. Mais voilà. Et je me suis pris une grosse tôle en anglais, je crois. Enfin, vraiment, j'ai pas eu des bonnes notes. Et ce qui m'a sauvée, ça devait être l'épreuve de culture générale ou d'histoire. Et c'était sur les minorités aux États-Unis. Et j'avais, merci le hip-hop, une passion pour les Black Panthers.
D'accord.
La ségrégation, etc., les périodes-là, que finalement je maîtrisais assez bien. Et du coup, j'ai fait, j'ai axé mon concours. Et enfin, voilà, c'était une période de l'histoire américaine qui est passionnante et qui est bouleversante. Bref, c'est grâce aux Black Panthers que j'ai été.
Ouais, grâce au hip-hop, grâce au son hip-hop aussi de ces années-là. Check the strip, me and the guards getting ripped. Blunts in the grip, 40 dogs in my lips. Had a box, boom boom, the bass would blast. We was laughing at all the girls that passed. Conversation, brothers had begun to discuss. Hey yo, Raw, remember that kid to bust? Oh yeah, he ran, buddy. Wu-Tang Clan, Tears. Not knowing exactly what lied ahead. My little brother, my mother sent them out for bread. Get the one duck, it's a hot day in the summer. Didn't expect. A crazy gunner, hey short, check it from the bag in the dough. But he would pray, look him in the eye, said no. Money splattered him, bowed, and he snatched the bag. Hit his pockets, then he jetted up the ass. Girl screaming, the noise up and down the block. What? I ran frantically, then I dropped down to his feet. I saw the blood all over the hot concrete. I picked him up, and I held him by his head. His eyes shut, just when I knew he was. Oh man, how do I say goodbye?
Yeah.
Alors dans cette année-là, qui se passe pas très bien, puisque vous n'y restez pas, vous voyez un peu les limites de vos compétences personnelles par rapport surtout à votre encadrement d'amis ou de collègues ou de copains étudiants de cette époque-là, quoi, sur Rennes.
Bah oui, là, ça demande un effort de travail et un bagage...
Périne Lagru.
Intellectuel, alors que j'ai pas vraiment, qu'en soi je peux sans doute acquérir, mais donc je bosse, mais j'ai l'impression que je vais pas rattraper le retard. Alors pourtant, il y a quand même, donc l'ambiance est un peu spéciale, hein, Sciences Po, moi c'est vrai que je m'y reconnais pas vraiment entre les encartés.
Ouais.
Voilà, moi je me sens un peu à côté de la plaque de tout ça. Cela dit, il y a des profs passionnants. Le prof d'histoire politique, là je parlais du prof d'histoire ancienne, c'est voilà, sur le marxisme, etc. Je vraiment, des gens d'une grande, grande qualité. Mais voilà, je me retrouve quand même pas loin d'être en échec scolaire. Donc pour le moral, c'est pas terrible non plus. Mais je vote pas, je vais jusqu'au bout, hein, j'essaye, et puis faut avoir la moyenne, en fait, on peut pas redoubler la première année de Sciences Po, il faut avoir 10, et donc, dernière rentrée, je serai la première virée, c'est-à-dire que je termine avec 9,98 après la repêche.
D'accord.
bon, voilà, mes parents sont furax.
Vous avez estimé qu'à ce moment-là, vous avez un peu fait le maximum pour, comme vous l'avez dit, vous travaillez, quoi, pour essayer de rejoindre le niveau de vos copains et que, voilà, vous avez quand même travaillé, quoi, et fait ce que vous avez pu. Vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher.
Mais, ouais, je vois bien que peut-être je ne suis pas dans ce moule-là non plus et que j'y serai pas. Mais c'est vrai que je vois, par contre, s'éloigner ma possibilité, mon rêve de grand reporter, parce que je vois bien que j'écrirai pas comme un grand comme les grands journalistes nationaux, internationaux. Je vois bien que j'ai atteint mes limites et que c'est peut-être pas tout à fait là mon parcours. Puis même j'ai un peu changé. Je penche aussi vers l'humanitaire. Je pars avec une association que j'ai rencontrée au sein de Sciences Po. On part un mois et demi au Vietnam avec une copine sur des chantiers, etc. Donc voilà, j'ai toujours ce goût des voyages, mais je vois bien que mes capacités intellectuelles me permettront peut-être pas d'atteindre ce que j'avais imaginé.
Et puis vous décidez de revenir sur Saint-Brieuc l'année suivante, hein, pour reprendre.
L'année suivante, bah, disons que j'avais la première année de Doug, et au sortir de Sciences Po, bon, c'est un peu quand même le coup de massue. Jusqu'au bout, tout le monde y a un petit peu cru et il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de finir le DEUG en attendant de savoir ce que je veux faire. Bon, c'est cet été-là que je pars au Vietnam. Je rentre du Vietnam, mes parents, sans rien me dire, m'avaient direct inscrite pour aller au Vendanges, pour pas que je reste traînée à Carac avec mes copains au mois de septembre. Donc je me cogne 15 jours de Vendanges, mais croyant. Me faire payer mes légèretés de Sciences Po. En fait, je rencontre un groupe super au Vendanges, je m'éclate complètement, enfin voilà. Et donc, je reviens finir ce doc d'histoire, et là, bon voilà, mes parents ne sont pas très contents quand même, et je m'inscris pour être ouvreuse à la passerelle scène nationale de Saint-Brieuc, dans laquelle mes parents m'emmenaient très régulièrement, hein, puis mon enfance. Et là, c'est vrai que...
Pendant le doc d'histoire, du coup, hein, c'est ça, hein,
ouais,
c'est ça.
Voilà, pendant le doc d'histoire, ça me fait un petit pécule à la fin du mois. Et là, en fait, je suis vraiment dans ce rapport à la scène.
D'accord, là, ça, c'est le début de votre... Vous n'aviez pas auparavant, dans d'autres vies, ce soit à Rennes ou à Saint-Brieuc, jusqu'ici, côtoyé un peu le monde du spectacle ou des pièces de théâtre, etc. Pas plus que ça, quoi, de façon... Ouais. À envisager quelque chose de professionnel, enfin, en tout cas.
Voilà, si je le fréquentais, je fréquentais le monde du spectacle en tant que spectatrice, j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma, je lis beaucoup. Mais par contre, là, le rapport au spectacle vivant, quelque part, me saute à la gueule à la passerelle. Et je me dis, mais en fait, c'est là que je suis bien. Alors, j'ai toujours ce rapport au journalisme qui est pas loin, parce que. À la fin de l'année d'histoire, bon, clairement, il faut choisir une orientation et je passe le concours pour aller à l'IUT Infocom de Lannion. où je présente mon dossier en tout cas. Mais effectivement, cette année-là, je vais au CIO, Centre d'information et d'orientation. Puis je rentre dans le CIO et là, il y a un pupitre avec marqué métier des arts et du spectacle. Et vraiment, je suis restée 5 minutes, je l'ai ouvert comme ça. J'ai tourné 3 pages, j'ai vu ingénieur. Il y avait à l'époque émergeaient en fait ces écoles qui préparaient au métier des arts et de la culture, qui s'appelaient des instituts universitaires professionnels. Et il y en a deux, un à Lille et un à Aix-en-Provence. Je vais à Lille, je passe l'oral, je suis prise et donc je décide de quitter la Bretagne et d'aller m'éloigner un peu du cercle familial qui sans doute n'était pas très cool à ce moment-là puisque mes parents s'inquiétaient. Enfin. Donc, et je laisse tomber cette piste du journalisme pour aller m'immerger dans les métiers de la culture.
Adnan Joubran, Beat the Dream.
Musical.
Est-ce qu'il y a eu des déclics un peu sur des spectacles que vous auriez vus pendant cette période-là qui vous a dit c'est ça que je veux faire, je veux accompagner tout ça, ou alors c'était déjà vous étiez déjà un peu impliqué dans l'équipe pour voir un peu tous les métiers qui pouvaient tourner autour de la scène. Hein.
Bah, je pense qu'il y a plusieurs.
Périne Lagrue.
Moi vraiment je le redirais, mais...
Directrice de la grande boutique à Langonnette.
Je crois que j'ai une sensibilité à l'art en général, et donc je prends tout, la danse, la musique, le théâtre, je découvre Brecht, la danse contemporaine, Caroline Carlson à l'époque, enfin... Je sais que... Je suis touchée par tout ça et sans avoir une affinité particulière avec une discipline. Et à l'époque, c'est surtout le cinéma, en fait, qui me...
Ah ouais, d'accord. D'accord.
J'aime le spectacle vivant, mais ma vraie, ce dont je ne me lasse jamais, c'est le cinéma.
Vous vous engagez dans les études et allez tout apprendre sur les bancs de l'université.
En fait, donc quand je pars à Lille, l'institut universitaire professionnel, c'est dans l'enceinte de l'université, mais on a quand même un emploi du temps qui est dense. Hein. Donc je me consacre à ces études, et puis là j'arrive dans une ville. Ouais. Autant Brieux, il y avait la passerelle, autant Lille, la dynamique culturelle que c'est à l'époque. On est donc juste avant Lille 2004. C'est l'émergence des maisons folies, c'est une ébullition culturelle à Lille, c'est une ville qui est ouverte sur l'Europe. Enfin, j'ai un coup de cœur hein, pour cette ville d'ailleurs.
D'accord.
J'arrive en me disant oh là là, c'est une grosse ville, moi qui viens de la campagne, etc. Puis il y a c'est une ville qui est à la fois qui a ce côté très populaire, qui porte une histoire, qui a ce goût de la fête. Donc gros coup de cœur, une classe aussi, on est une quarantaine dans cette promotion.
Ouais, donc ça va.
Des amitiés qui émergent, qui pour le coup là par contre sont restées et durent encore. Et là par contre ouais je et puis comme on est tous passionnés d'art et culture, ben là on s'enrichit les uns les autres. Ah venez voir ce truc là, ça c'est vachement bien. Et donc là ouais je découvre plein de choses. On appelle la scène nationale de la Rose des Vents. À Villeneuve-d'Ascq, où je découvre le travail de Arndt Sierens, qui est auteur et metteur en scène contemporain, avec la pièce s'appelait « Pas tous les Marocains sont des voleurs ». C'est un choc. Donc là, ouais, là, je commence à vraiment rentrer dans l'histoire, toujours le cinéma, trois fois par semaine, et le théâtre, la danse. Des petits concerts dans les bars.
Donc,
oui, voilà, je vois Manu Solo, Nouveau Siècle, un concert qui restera toute ma vie dans ma mémoire.
D'accord. Et des matières qui vous sont enseignées donc à l'IUP, que vous devez en plus... autant peut-être la politique, c'était peut-être un peu plus abstrait, alors que là, vous rentrez sur des métiers un peu plus pratiques, un peu plus professionnels.
Oui, après c'est riche hein, comme enseignement puisqu'on a de la sociologie, on a l'histoire culturelle, l'histoire Q comme on l'appelle à l'époque, on a effectivement des professionnels qui interviennent dans le cadre de la formation et puis tout aussi l'infrastructure politico-administrative de la France avec le rôle des DRAG, des collectivités territoriales, etc.
D'accord.
On construit quand même une base de
savoir important.
De savoir qui va nous servir après dans notre vie professionnelle, puisque en plus on est obligé de faire des stages au cours de cette formation donc ça durera en trois ans, et un mois de stage la première année, deux mois de stage la deuxième année, quatre mois de stage la dernière année. Premier stage en première année, je le fais à la passerelle, voilà, facile, un mois.
Mmh.
Deuxième année, mes parents avaient gardé des relations avec des gens en Afrique. Et comme je suis plutôt branchée par le cinéma, je pars en stage tout le mois de septembre sur un festival à Ouagadougou. Pas sur le temps du festival, mais dans l'association qui l'organise. C'est le festival FESPACO, qui est un gros festival de cinéma en Afrique, enfin particulièrement en Afrique de l'Ouest.
Burkina Faso.
Burkina Faso, donc là, premier voyage, toute seule, 19 ans, première expérience toute seule en Afrique de l'Ouest, je rencontre évidemment des Européens, mais aussi des Burkinabés, il y a toujours ce côté zone qui me rattrape un peu assez vite, mais n'empêche que c'est une formidable expérience, j'ai le souvenir de cette séance de cinéma itinérant où j'accompagne l'équipe dans un village, le jour du marché du Dolo. Alors le Dolo, c'est une bière de mille qui fabrique localement. Une partie est complètement bourrée. On est à la fin du marché du Dolo. Donc tout, on sent le matériel, tout le monde essaie de nous aider. Oh, je me dis, qu'est-ce que ça va être ce truc. Et on leur projetait des films un peu pédagogiques. Voilà, c'était... destinés vraiment à la population qu'ils étaient, aux agriculteurs. Et il y a une ambiance du tonnerre de Dieu devant ce film où il ne se passe pas grand-chose, c'est pas... ça rigole, ça se bouscule dans tous les sens, enfin bon, c'est complètement...
Un gros décalage entre ce que vous vouliez peut-être transmettre comme message et puis l'environnement, quoi, du moment.
Le message passe, ils sont complètement dedans, mais c'est surtout l'excitation de l'alcool qui rend le truc complètement farfelu, quoi. Bon, voilà, on remballe tout ça et je me dis, mais là, j'ai fait un truc quand même, j'aurais pas pensé... bon, faut dire qu'aussi en Afrique, le cinéma est vécu un peu de cette manière-là. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est une une très belle expérience, cette période, ce mois au Burkina. Et là, j'ai le gros coup de cœur avec l'Afrique de l'Ouest. On y était déjà... Alors, j'avais pas évoqué le fait que mon père avait vécu un an au Mali quand j'avais 12 ans et au moment du coup d'État dans les années 90, enfin en 90-91, là, il avait dû rentrer dardard. Après avoir disparu et s'être caché chez les Peuls en ayant pris uniquement son chien. Donc voilà, il y a un rapport à l'Afrique qui est très fort dans ma famille.
D'accord.
Mais c'est la première fois que j'y vais toute seule. Mmh. Et vraiment, là, je pars en disant je reviendrai.
On se revoit donc la semaine prochaine, Périne à la grue. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine, merci.
Tigana Santana, Vida Codigo.
Chorei, refazendo o céu, no instante em que a dor cria mundos. As imagens já não tinham del. A poesia dos fatos não mudou. A vida é o tempo antes do pó. Meu nego, não me deixe só. A vida é o tempo antes do pó. Meu nego, não me deixe só. Nunca diga que o meu corpo abriga a paz. Eu não tenho uma alma de fundo. Tudo morre, tudo vaga, tudo alaga, tudo nada no rio. Jamais.
Merci à notre invitée du jour, Périne Lagru. C'est la directrice de la Grande Boutique, résidence d'artistes du Nord-Est morbihanais. Merci à elle pour cet entretien réalisé par l'intermédiaire de Skype, en confinement, chacun chez soi. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.
Sabe, nego, acho serei eu para sempre um performer agudo. De voz grave e poeta ateu entre espíritos fins e absurdo. Larararararerero. 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 Larararararerero.